Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Vous nous appelez, RFI vous donne la parole, vous commentez l'actualité de votre choix, c'est la libre antenne, on reviendra sur le projet de révision constitutionnelle en Guinée, sur la décision de la Confédération africaine de rejouer le match retour de la Ligue des Champions. Nous avons des réactions également sur cette affaire qui secoue le Sénégal, l'affaire Aliou Sall, le frère du président de la République qui est accusé dans un documentaire de la BBC d'avoir touché des pots de vin. Mais d'abord, je vous le disais en première partie d'émission, vous êtes nombreux à commenter la décision prise hier par l'Union africaine, décision de suspendre le Soudan jusqu'à l'établissement d'une autorité civile de transition. Bonjour Cyril.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de Bangui en Centrafrique et vous disiez au Standard être très satisfait par la décision de l'UA.
Effectivement, je suis très satisfait par le choix effectué par l'Union africaine. Parce qu'au moins, pour une première fois, l'Union africaine n'a pas tergiversé. Elle a les droits au but en imposant des sanctions à un régime qui s'accroche au pouvoir malgré la révolution des civils ayant chassé le président Béchu de pouvoir. Mmh. Et après avoir entrepris des négociations en vain, on a clairement vu que ces personnes ont le sentiment de s'accrocher au pouvoir. Et encore plus grave, ils ont massacré plus d'une centaine de personnes. Je pense que l'Union africaine a très bien fait de sanctionner le régime en pouvoir en ce moment. Et ce que je souhaite, c'est que d'autres organisations comme les Nations Unies et l'Union Européenne puissent emboîter le pas à l'Union africaine afin que cette sanction puisse contraindre ces personnes à céder le pouvoir aux civils.
Ouais, vous parliez de plusieurs centaines de personnes tuées lors de la répression meurtrière. Vous exagérez un peu les chiffres. Il y a au moins 180 morts. 180 morts selon le comité de médecins, qui est un comité proche des manifestants. Plus de 500 blessés. On a vu tout à l'heure en première partie avec Julie Vandal, qui répondait à des questions d'auditeurs, la difficulté de trouver un consensus au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque pas plus tard que cette semaine, mercredi, la Chine et la Russie ont bloqué un texte qui condamnait justement les violences. Il ne suffit pas de suspendre le Soudan. Est-ce qu'il faut maintenant que l'Union africaine adopte des sanctions ciblées, si jamais, dans les prochains jours, les militaires qui sont au pouvoir ne rendent pas le pouvoir justement aux civils?
Ben, ouais, moi, je pense qu'on a souvent accusé l'Union africaine de ne rien faire, ou même parfois d'être complice des prises de pouvoir par les armes en Afrique. Mais au moins pour une fois, il y a quand même une action d'envergure qui a été prise par l'Union africaine ou plus à l'endroit des militaires au pouvoir. Et maintenant, il faut travailler davantage. Je suis d'accord avec vous qu'il est important qu'on travaille à l'application des sanctions qu'on a prises, mais également qu'on approfondisse les sanctions en allant vers des sanctions beaucoup plus ciblées. Oui. Parce qu'effectivement, l'Union africaine, parfois lorsqu'elle prend une décision, quelques mois plus tard, elle fait un volte-face. C'est le cas avec la RD Congo. Donc, on suppose que cette fois-ci, l'Union africaine ira jusqu'au bout.
Jusqu'au bout, donc, des sanctions ciblées, des interdictions de visa, par exemple, c'est ce qui est prévu dans les textes de l'Union africaine. Cyril, merci d'avoir appelé de Bangui. Restez en ligne si vous souhaitez écouter Brice Day, qui nous appelle de France. Bonjour Brice Day.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes soulagé par cette décision de l'Union africaine?
Oui, très soulagé, bien que tardif, parce que je pense que les premiers morts suffisaient pour décider. Malheureusement, on a attendu qu'il y ait plus de morts pour prendre une telle décision. Une décision que je trouve très importante. Malheureusement, certains pays continueront, je pense, à soutenir l'agente au pouvoir, ce qui est dommage. Je pense à l'Égypte, notamment, qui certes dirige l'Union africaine aujourd'hui. Je pense que le régime Sisi est très proche de la junte. Donc je doute fort que les mesures prises aient vraiment un effet sur la junte militaire. La pression doit plutôt être, je pense, internationale, ouais. Au-delà de l'Union africaine.
Oui, enfin, internationale, s'il n'y a pas de texte adopté au Conseil de sécurité des Nations Unies, la pression sera somme toute limitée, même si on a vu plusieurs pays de l'Union européenne condamner sévèrement le bain de sang de lundi dans les rues de Khartoum, tout comme les États-Unis, à suivre donc, évidemment, s'agissant de la pression internationale. Merci, Brice Day, merci à Cyril. Allez, un dernier auditeur, puisque vous êtes nombreux tout de même sur cette décision de l'Union africaine. Bonjour, shérif.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous êtes à Conakry. On vous écoute.
Oui, merci. Non, mais en fait, bon, tout le monde se félicite de ce que l'Union africaine vient de faire là. Il ne faut pas qu'il s'arrête là, de toute façon. Les condamnations, les suspensions, même l'interdiction de visa, ces genres de militaires n'ont rien à foutre. Le principe, c'est d'enlever dans la tête des armées africaines qu'elles doivent s'occuper de la gestion de la République. Après, on dira que non, c'est une question de sécurité, parce que s'ils partent, c'est la catastrophe, c'est l'imbroglio, comme en Libye, hein, comme en Irak et partout ailleurs. Il va falloir que l'armée, qui est beaucoup plus structurée que les autres acteurs de la société, reste en veille. Mais non, nom de Dieu. L'Afrique doit maintenant, ça fait 60 ans de colonisation, 60 ans d'indépendance, c'est terminé. On va vers la gouvernance. Tous ces problèmes de l'Afrique, c'est une question de gouvernance. Ouais. Maintenant, l'Union africaine, bon, écoutez, surtout, je ne veux pas entendre parler de l'Union, des Nations Unies.
Donc vous faites partie de ceux qui disent, ça se passe sur le continent africain, c'est aux Africains de gérer ce dossier.
Absolument, avec la nouvelle génération. Je suis très heureux ce matin d'entendre que le Premier ministre éthiopien, parce que ça, c'est une nouvelle génération de dirigeants africains. Ils n'ont rien à voir avec les méthodes anciennes de la vieille garde, qui a pris l'indépendance. Voilà, il faut qu'il aille. Et maintenant, ce que je souhaiterais, Juan, c'est que M. Madani, qui est le responsable qui est à la tête de cette révolution-là, qu'il le prenne en aparté et qu'il le dégage du Soudan, parce que c'est des gens qui ne sont pas habitués aux affaires d'État. Ce ne sont pas des hommes d'État. Les négociations, il va falloir que le Premier ministre d'Éthiopie les accompagne en expertise, qu'il ne les laisse pas là en face de cette jeune pour dire, écoutez, voilà, asseyez-vous sur table et nous repartons.
Enfin, vous ne pouvez pas complètement exclure les militaires des futures négociations.
Juan, il faut les exclure, je t'en prie, écoutez, à quelque chose, malheur est bon, ça suffit. Le printemps arabe a échoué, c'est parce que l'Égypte a vite fait, l'armée a vite fait de ramener les islamistes à la maison. Hein, et Kadhafi, ça s'est très mal passé, effectivement. Voilà, aujourd'hui, c'est les milices qui sont chefs du pays.
Il faut tirer les leçons, notamment de ce qui s'est passé en Libye. Merci. Je vous interromps un peu brusquement, shérif, mais vous aurez l'occasion de prolonger ce débat avec Charlotte Hydrak, qui sera ici même à ce micro lundi. Donc, continuez à appeler et à réagir sur la page Facebook de l'émission après donc la décision de l'Union africaine de suspendre le Soudan. Bonjour, Verlaine. Verlaine, êtes-vous là?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour. Le réseau téléphone fonctionne entre Paris et Goma. Vous êtes en République démocratique du Congo et vous souhaitiez réagir aux récentes nominations à la tête de la GECAMINE, l'entreprise congolaise des mines. Il y a également eu des nominations cette semaine à la Société nationale des chemins de fer. Et vous êtes assez déçu, vous?
Oui, un peu très déçu parce que revoir les mêmes personnalités qui ont pu gérer la GECAMINE pendant plus de 10 ans avec la gestion et tout ce qu'on a connu au pays, surtout la gestion des entreprises publiques. Et personne donc n'est sans ignorer qu'il n'y a pas d'entreprise publique de l'État qui soit réellement debout depuis l'époque de Mobutu. Et connaissant très bien ce qu'a été comme gestion du pays et surtout des entreprises publiques sous le règne de M. Joseph Kabila, revoir certaines figures comme celle d'Albert Yuma à la tête de la GECAMINE, c'est comme confier la GECAMINE à Joseph Kabila.
Albert Yuma est un fidèle de Joseph Kabila. Il a été reconduit à ce poste-là. À un moment donné, il était pressenti Premier ministre. Mais il y a plusieurs ONG qui l'accusent d'avoir fait disparaître des millions de dollars de recettes publiques pendant son mandat. Le mandat précédent à la tête de la GECAMINE. Ça vous choque donc que le président Tshisekedi reconduise cette personnalité à la tête de cette entreprise qui est importante, c'est la société, c'est l'entreprise congolaise des mines.
Oui, si, si. Ces décisions, en fait, nous choquent parce que, et je qualifie d'ailleurs cette décision de très politique, elle ne visera qu'à garantir, voire sauvegarder les intérêts que je qualifie de politiques et non c'est de la Gécamine et de tout ce qui va avec le budget national. On aurait aimé voir des nouvelles personnalités qui peuvent refléter à même la meilleure gestion. Ouais. Albert Yuma a géré pendant plus de 8 ans, ou plus d'ailleurs, ça pouvait être suffisant pour lui, il est temps de faire allusion à quelqu'un d'autre, à une autre personnalité pour gérer cette entreprise, parce ouais. que vous voyez vous-même que les entreprises publiques de l'État au Congo ne marchent pas, et c'est la population et les budgets en soi, des budgets de l'État congolais qui n'est pas en train d'avancer, on est en train de se contenter au fait des 4-5 milliards dans un grand pays qui a une immense population comme la nôtre.
Ouais. Donc, c'est une Verlaine, j'entends votre analyse et votre colère. Ça, c'est pour la nomination des Gécamines. Au même moment, il y a eu des nominations à la tête de la Société nationale des chemins de fer. Là, pour le coup, ce sont des proches d'Étienne, ce sont des proches du président Tshisekedi. Est-ce que vous comprenez finalement que ce soit un peu normal que chacun qu'on se partage le gâteau? Un fidèle de Kabila pour la Gécamines et un fidèle de Tshisekedi, des fidèles de Tshisekedi, pour la Société nationale des chemins de fer.
Bon, en fait, moi, mon problème, je dois dire que le problème n'est pas surtout situé aux personnalités. Moi, mon problème, c'est la personne d'Albert Yuma. On D'accord. aurait aimé voir d'autres personnes qui peuvent gérer la Gécamines, d'autres personnes tellement intelligentes qui ont en elles la bonne gestion des entreprises publiques. Ça pourrait au moins susciter un espoir. Mais là, on a comme l'impression qu'on va toujours assister à la mauvaise gestion, au manque de transparence et dans la gestion de cette grande entreprise.
Merci beaucoup Verlaine. Je vous interromps, vous êtes à Goma. Merci d'avoir appelé, bonne journée. J'en profite d'ailleurs pour rappeler aux auditeurs de Kinshasa que nous serons mardi à la halle de la Gombe à partir de 16h pour l'enregistrement de 2 émissions. On parlera de l'alternance pacifique de l'histoire de la RDC. On verra si Félix Tshisekedi, selon vous, peut vraiment incarner la rupture ou s'il n'est pas finalement l'otage de son prédécesseur Joseph Kabila. Et puis ensuite, en deuxième partie, nous dresserons un état des lieux de la situation économique et sociale avec vos témoignages. L'affaire Aliou Sall, voilà une affaire qui secoue le Sénégal depuis le début de la semaine. Bonjour Amadou.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de Dakar, c'est donc dans un documentaire diffusé par la BBC qu'on a appris que le frère du chef de l'État aurait touché des pots de vin à l'occasion de l'attribution de 2 champs pétroliers et gaziers de 2012, en 2012 au large des côtes sénégalaises. Ces informations sont démenties par le principal intéressé, par Aliou Sall, démenties par le pouvoir et notamment par le président Macky Sall lui-même qui a pris la parole mardi. Cette affaire est extrêmement grave, disiez-vous au Standard.
Tout à fait, Juan. C'est extrêmement grave. Et ce qui me désole le plus dans cette affaire-là, c'est qu'on a l'impression que, en matière de gouvernance publique, au Sénégal, on est dans un perpétuel recommencement. C'est-à-dire qu'on reste dans une approche planique et familiale. Souad, on a eu Karim. Et maintenant, on a Aliou avec Macky Sall, qui est le frère de Macky Sall. Donc, je pense que on doit quand même arrêter d'impliquer à ce niveau-là les membres de la famille dans la gestion de l'État. C'est que ça conduit souvent à ce genre de situation-là. Et je pense que c'est pas une bonne chose pour le Sénégal. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est par rapport à la réaction du gouvernement que dont vous avez parlé tout à l'heure. Effectivement, on a eu un document, donc ils ont appelé ça un mémorandum le lendemain
de la diffusion
de la BBC, de la diffusion de documentaire, et où le gouvernement fait une réaction effectivement, donc pour essayer de démentir un peu.
C'est pas démentir un peu, c'est démentir clairement, Amadou. Où voulez-vous en venir alors par rapport aux déclarations du gouvernement?
C'est ce que je veux dire. Non, c'est pas vraiment démenti parce que ça n'apporte pratiquement pas d'éléments nouveaux. tout ce qui a été dit dans ce mémorandum-là était déjà connu des Sénégalais.
Bon, était dans l'imaginaire, excusez-moi, mais quand vous dites qu'il n'y a pas eu de démenti, je ne veux pas me faire le porte-parole ou l'avocat du gouvernement. La porte-parole, qu'a-t-elle dit ? Elle a dit « L'enquête de la BBC est un tissu de contre-vérité destiné à jeter le discrédit sur le gouvernement et l'État du Sénégal. » Si ce n'est pas contredire ce qui est diffusé dans le commentaire, je ne sais pas quelle autre formule il faudrait utiliser.
Non, Rob, je parle des éléments de preuve. Bon, on peut dire c'est un tissu de contre-vérité, etc. Mais quelles sont les preuves que le gouvernement avance pour dire qu'effectivement, c'est faux ce qui a été dit dans le documentaire? Ça, on n'a pas eu ça.
Ouais, mais est-ce que ce n'est pas à nos confrères de la BBC d'apporter les preuves de ce qu'ils avancent plutôt?
Ils ont donné des preuves, ils ont donné des textes, ils ont donné des contrats, des documents, etc. Et de la part du gouvernement, on n'a pas eu de documents, de preuves qui contredisent justement ces informations-là. Et donc ça, c'est un problème. Et pour moi, ce qu'on attendait du gouvernement dans une affaire comme cela, où il y a des soupçons de fraude et de corruption qui touchent les deniers publics, ce qu'on attendait, c'est que le gouvernement nous dise qu'une enquête sérieuse et indépendante sera menée pour éclairer les Sénégalais sur qu'est-ce qu'on a fait de leurs ressources.
Ouais, en tout cas, le président Macky Sall, lui, a dit que tout était fait au niveau du gouvernement pour une gestion transparente des ressources pétrolières et gazières. Le dossier est loin d'être clos. Vous aurez l'occasion d'en reparler, évidemment, sur notre antenne et de revenir quand vous le souhaitez, évidemment, Amadou. Bonne journée à Dakar. Allez, on va terminer en parlant de cette curieuse décision de la Confédération africaine de football, la CAF, qui décide de rejouer la finale de la Ligue des Champions. Décision inédite et très contestée. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes vent debout. J'aime beaucoup cette formule, vent debout. Vous êtes vent debout, Patrick.
Je suis vent debout parce que c'est une véritable cacophonie. J'ai honte pour l'Afrique, j'ai honte pour le président de la CAF, parce que de mon point de vue, il devrait démissionner. Il n'est pas à la hauteur de gérer la CAF. On ne peut pas prendre une telle décision et plus revenir. Ce n'est pas normal. Donc, je crois que vraiment, c'est une honte pour toute l'Afrique d'assister à des décisions aussi inédites comme vous les appelez.
Ouais. Qu'est-ce qui vous choque le plus, Patrick, dans le fait que la CAF décide de rejouer le match retour de la Ligue des Champions?
C'est cette décision inédite. Elle est totalement inédite. Sur le coup, les Marocains se sont montrés indisciplinés. Le fait de ne pas revenir sur le terrain, c'est une indiscipline qu'on devait sanctionner. Et la sanction, c'était d'attribuer la coupe au vainqueur qui était les Tunisiens.
Oui. Enfin, pour résumer très rapidement et grossièrement la situation, il y avait égalité entre les Tunisiens, les Marocains. Les Marocains marquent à but. Ce but est refusé par l'arbitre, alors que le but est valable. L'arbitre invoque un hors-jeu imaginaire. Imaginaire, enfin inexistant, à moins que vous puissiez...
Imaginaire.
D'accord. Donc le but est invalidé, c'est normal que les Marocains se mettent en colère. Surtout que les Marocains disent à l'arbitre, monsieur l'arbitre, allez voir la vidéo, regardez la vidéo et dites-nous s'il n'y a pas but. Et que se passe-t-il à ce moment-là? La vidéo est en panne.
Mais Juan, je veux vous renvoyer dans les annales du football. On a vu des décisions aussi injustes dans le football. Ça n'a pas pourtant fait, on n'a pas arrêté le match, on a continué. Voilà, l'histoire du football, il y a autant d'exemples qui nous montrent, voilà, à valider un but hors-jeu, et ainsi de suite.
Patrick, je vous présente Olivier qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Juan Gomez.
Pour vous, la décision de la CAF est courageuse?
Oui, une décision très courageuse. Et là-dessus, je crois que la CAF a mieux fait de prendre cette décision. Tout à l'heure, il y a mon ami qui vient de passer qui dit qu'il faut valider la victoire de l'équipe tunisienne. J'ai dit non, les règles ont changé. Depuis au moins 2 ans, cette machine a fait partie intégrante du jeu. Dès le départ, on dit aux Marocains, il y a une machine à la VAR qui va pour partie du match.
Oui, oui.
Et lorsqu'on a besoin de cette machine, il faut que la machine fonctionne.
Oui, mais enfin, les textes sont clairs. Hein. Les textes stipulent qu'un match ne peut pas être invalidé par une défaillance de la vidéo. Vous voyez, le règlement n'est pas respecté.
Non.
Et on va rejouer ce match retour. Il faut le rejouer avant le mois de juillet. C'est ce que prévoient les textes de la Confédération africaine de football. Dans un peu plus de 15 jours commence la CAN. La CAN se termine le 20 juillet, le 19 juillet. On se demande bien à quel moment la Confédération africaine de football va pouvoir organiser ce match retour. Bref, ça renvoie malheureusement encore une mauvaise image du football africain à 3 semaines du lancement de sa principale compétition, la Coupe d'Afrique des Nations. Là aussi, le débat est loin d'être clos. Lundi, à ce micro, Charlotte Hydrac, et vous parlerez évidemment de la décision de l'Union africaine de suspendre le Soudan. Bonjour.